Allô ?
Sophia ?
Oui, Margot, coucou, tu m'entends bien ?
Ouais.
Ça va ? Je dois me déplacer ou pas ?
Non, non, c'est très bien. Toi, tu m'entends aussi ?
Je t'entends avec un léger écho, mais c'est pas très grave. Ouais. Je vais essayer d'être attentive aux questions et si je les comprends pas, je te demanderai de les reposer.
Ok, on attaque direct ?
Comme tu veux, ouais, comme tu veux. Il n'y a pas de souci, c'est toi qui mène la danse.
Ça a été une des premières réflexions que nous nous sommes faites. Celles qui sont confinées avec leur conjoint violent vont vivre un enfer. Leur quotidien d'horreur va être décuplé. L'absence d'anticipation de la crise de la part du gouvernement les a conduits à prendre des ersatz de mesures pour endiguer ce fléau, mais rien de très concret pour l'heure. J'ai eu envie d'aborder le sujet avec une femme de terrain que je suis depuis quelque temps maintenant sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Sophia Antoine, des fleurs dans les cheveux et la poitrine comme étendard, elle arpente nos rues avec ses sœurs pour faire entendre nos droits. Vous l'aurez deviné, c'est une fémène. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Confinement Voiture.
Confinement !
Épisode 6, une fémène dans la radio.
Bonjour Sophia Antoine, merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors Sophia, vous faites partie du mouvement Fémen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir la pandémie et ses conséquences, est-ce que vous pouvez me parler de ce mouvement et m'expliquer comment on s'y retrouve ?
Alors, le mouvement Fémen, c'est très connu, hein, même au niveau international. C'est un mouvement qui fait beaucoup parler de lui. Ce sont des Amazones, des temps modernes, des féministes revanchardes et surtout des extrémistes de l'égalité qui se font entendre en utilisant leur torse et qui sont là pour demander en fait des mesures fortes, des prises de conscience, des débats autour des problématiques féministes et humanistes.
Et alors comment vous êtes retrouvée dans ce mouvement ?
Alors comment je me suis retrouvée dans ce mouvement ? Eh bien je vais être assez... c'est assez peu rocambolesque parce que je me suis retrouvée dans ce mouvement par hasard. J'allais jouer à un spectacle jeune public au Lavoir Moderne parisien. Et à l'époque, je connaissais très bien le directeur du Lavoir Moderne, qui s'appelait Hervé Breuil. Et Hervé Breuil m'a dit, écoute Sophia, on se connaît bien, je vais me permettre de te faire une proposition, tu devrais aller rencontrer les jeunes femmes à l'étage. Et il m'a indiqué l'étage, je m'y suis rendue, et là j'ai vu qu'il y avait des pancartes plein les murs, qu'il y avait des gants de boxe suspendus, des couronnes, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc je me suis entretenue avec l'une d'elles, et elles m'ont expliqué quelles étaient les fémènes, qu'elles venaient de débarquer en France, et qu'elles cherchaient des femmes volontaires pour interférer dans l'espace public et politique avec leur poitrine. J'ai trouvé ça simple. J'ai trouvé ça culotté, j'ai trouvé ça pertinent et je me suis aussitôt ralliée à leur cause.
Le monde entier les connaît et les reconnaît aujourd'hui, ces femmes fières, couronnées de fleurs, les seins nus sur lesquels on a peint des messages qui marchent dans nos rues, envahissent les églises et interpellent les politiques par des actions saisissantes. Le 8 mars dernier, journée internationale des droits des femmes, les fémènes ont dénoncé le patriarcat virus en référence à la pandémie de coronavirus fraîchement déclarée qui frappait la planète de plein fouet et évidemment, Sophia en était. En plus de sa lutte quotidienne face au patriarcat virus, Sophia Antoine a été touchée par le Covid-19, elle s'en remet tout juste.
En fait, fémène est vraiment en porosité, en réaction avec l'actualité, donc bien souvent on s'en empare pour la détourner, ou pour l'appuyer, ou pour la caricaturer, en tout cas pour y répondre à notre manière, et ça nous permet en fait de mettre en lumière différentes problématiques. Quand on s'est appuyé sur la thématique du coronavirus, c'est parce qu'on a vu en Chine des rues être désinfectées, et toute cette espèce de mouvance anxiogène autour d'un virus qu'on fermait assez mal, qui était un peu partout, qui s'initiait de façon assez dramatique dans toutes les sphères de la société. Et ça nous a paru extrêmement fort de faire le rapprochement avec le patriarcat, qui est finalement aussi pandémique et délétère, et qui est partout, qui est donné à toutes les sauces, qui est dans le sexisme ordinaire, dans les violences faites aux femmes, dans les harcèlements, dans les injonctions. Donc on s'est vraiment on s'est amusé pour le coup à reprendre les codes de comme en Chine avec les combinaisons, les masques, les désinfecteurs, et on est allé nettoyer les rues pour préparer en fait la venue de nos sœurs, la venue de celles qui vont marcher pour demander leurs droits. On est venu les désinfecter du patriarcat virus. Donc c'était vraiment l'idée, c'était de faire un parallèle entre ces deux actualités. Et puis dans un second temps, et oui, j'ai été infectée par le coronavirus, mais toujours pas par le patriarcat virus, hein, puisque je ne laisse pas m'avoir celui-là. Je suis toujours levée contre et je m'insurge toujours autant contre. Pour l'instant, il ne m'a pas encore eu. Mais en tout cas, j'étais vraiment infectée, donc diagnostiquée Covid-19, donc Covidée, je ne sais pas trop comment on dit, j'ai subi la maladie. J'en sors tranquillement, sûrement. C'est une vraie gifle, c'est assez redoutable, c'est un coup de poing, ça nous met à terre, on a énormément de fièvre, et beaucoup de nausées, de diarrhée, très mal aux poumons, beaucoup de courbatures. Donc voilà, ça a été assez dur, assez douloureux. J'ai essayé de tenir bon et de pas paniquer, évidemment, parce que c'est la première chose qui nous vient à l'idée, vu les nouvelles alarmantes qu'on a. J'ai aussi essayé, par citoyenneté, de pas encombrer les hôpitaux ni les centres d'accueil, parce que je considère que c'est des personnes qui sont plus vulnérables que moi, qui sont vraiment insuffisantes respiratoires, qui ont des soucis qui sont en détresse, quoi, qui doivent être prioritaires. Donc voilà, je me suis soignée chez moi, je me suis reposée, j'ai énormément dormi, je crois que j'ai passé plus de 10 jours à dormir, donc finalement, pour moi, le confinement s'est passé relativement vite, j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà, j'ai été infectée par le corona, voilà.
Rassurée d'entendre que ça va mieux.
Ça va nettement mieux.
Au-delà des personnes atteintes par la maladie et des trop nombreuses victimes qu'elle fait, les mesures de confinement qui y sont liées exacerbent les violences intrafamiliales.
Oui. Alors malgré la maladie, je continue à recevoir énormément d'appels à l'aide, du SOS qui sont lancés du confin d'une chambre ou d'un salon, de femmes en fait qui se retrouvent avec leur adresseur ou leur bourreau toute la journée. Ouais. Des enfants aussi qui subissent les violences, parce que c'est une véritable cocotte minute, en fait, on enferme tout un tas de problématiques entre quatre murs, et c'est forcément, ça va être explosif. Donc il y a énormément de femmes qui essaient de partir, donc il faut continuer à mobiliser. Donc il y a des réseaux d'entraide et de solidarité qui se sont mis en place, il y a différents comptes, hein, de féministes, de structures. Donc, par exemple, on a réussi à loger certaines personnes dans différents endroits. Je fais des appels dans différents groupes pour avoir des logements, pour avoir des portes de sortie pour ces femmes qui ont peur non seulement d'être infectées, mais qui ont peur aussi de leur conjoint. Et je tiens aussi à rappeler, et pour moi c'est nécessaire de rappeler que aujourd'hui, ce n'est pas normal, ce n'est pas aux femmes et aux enfants d'être exfiltrés, c'est aux conjoints violents d'être dégagés de l'habitat. C'est lui qui pose problème, c'est à lui d'être précarisé, c'est à lui de prendre le risque d'être infecté, et c'est pas aux personnes qui subissent d'avoir la double peine.
Ça, c'est quelque chose que
vous... Un combat tous les jours, j'essaie de le faire entendre. Je me suis aussi insurgée sur le fait que M. Castaner propose que les femmes victimes de violences aillent se réfugier en pharmacie. En général, je trouve que l'idée n'est pas si mauvaise en réalité, mais je ne comprends pas le suivi, je ne comprends pas le continuum de cette idée, comment des femmes peuvent aller en pharmacie. Il y a des queues déjà, c'est au compte-gouttes, et ensuite les pharmaciens et les pharmaciennes ne sont pas formés pour recevoir ces femmes-là, ils sont même pas au courant pour la plupart. Moi, en l'occurrence, dans mon quartier, par exemple, les deux pharmacies sont fermées, donc ils sont pas au courant, ils sont pas formés, comment ils peuvent leur venir en aide. Et puis même, j'ai reçu des appels où il y a des femmes qui se sont allées en pharmacie, qui se sont plaintes aux pharmaciens, et le pharmacien a appelé la police a refusé de venir, donc même jusqu'au bout de la chaîne, ça fonctionne pas. Ouais. Donc moi, je propose en fait que quand on communique sur une idée, avant de communiquer, peut-être qu'il faut tout mettre en place, et après, on communique, voilà. Et en fait, le gouvernement fait l'inverse, en fait, il communique, et après, il tente maladroitement mettre en place tous les chenons, et ça marche pas. Sur le terrain, en tout cas, ça marche pas. L'idée est pas mauvaise, mais sur le terrain, c'est catastrophique, comme tout ce qui se met en place en réalité contre les violences aux femmes, où il n'y a rien qui réfléchit, il n'y a pas de budget, tout se fait à la communication, et c'est un peu lassant.
Malgré la demande récurrente d'une augmentation des moyens financiers alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes, les associations et actrices de terrain sont soumis aux décisions gouvernementales. Dans le cas précis du confinement, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, a annoncé qu'elle ferait débloquer 1 million d'euros pour financer jusqu'à 20 000 nuitées et qu'elle créerait des points d'accompagnement éphémères. Ces actions, ou ces chiffres, mis en regard avec l'augmentation des interventions pour violences conjugales de 32 à 36%, paraissent bien maigres.
Non, mais Marlène Schiappa, elle n'a pas réellement de ligne budgétaire pour lutter contre ce fléau et pour l'endiguer réellement. Donc, ils font de la communication. Hein. Encore une fois, je dis que s'adresser aux pharmaciens et s'adresser à la population, c'est juste en fait faire un tweet et communiquer dessus et faire quelques articles de journaux en disant que ça a marché et puis tout le monde va se ruer dans les pharmacies. Mais en réalité, il n'y a pas de continuum, les femmes ne sont pas prises en charge, la police est très mal formée, il n'y a pas d'unité spécialisée et je le redis, moi j'aimerais que vraiment que ça soit plutôt la mesure de Belloubet, en tout cas l'annonce de la mesure de Belloubet qui soit appliquée, c'est-à-dire qu'on dégage les conjoints et qu'on trouve des chambres d'hôtel aux conjoints, qu'on les dégage. C'est pas aux femmes de fuir, c'est pas aux femmes de partir, c'est pas aux femmes de quitter leur repère, c'est aux conjoints violents, basta. Et ça c'est un truc en fait que j'appuie, à part pour certains contextes, si les femmes veulent vraiment partir, je comprends et j'appuie, mais autrement, dans la majorité des cas, les femmes qui sont avec leurs enfants confinés, on n'a pas à les dégager. C'est pas la règle de partir. Donc aujourd'hui, on propose de façon systématique, on prend plus de main courante, ça y est, c'est gagné, alors le confinement a gagné ça, on prend des plaintes pour que les conjoints partent en garde à vue. Ils partent combien de temps en garde à vue? 24 heures. Comment voulez-vous qu'on se retrouve dans le contexte actuel? Comment voulez-vous trouver une solution en 24 heures si vous avez des enfants, comment vous voulez partir, fuir en 24 heures? Non. C'est-à-dire qu'en fait, il devrait y avoir derrière une garde à vue de 24 heures et derrière une obligation de protection des familles et donc que le conjoint ne puisse plus s'approcher du domicile familial à hauteur de 50 kilomètres, voilà, qu'il y ait un périmètre de sécurité qui soit établi par le procureur. Je ne sais pas, il faudrait faire les choses d'une façon un peu plus intelligente.
Et alors, dans des propositions de loi qui sont sorties récemment, au-delà de celle de Madame Belloubet, il y a eu celle de Laurence Rossignol qui visait à augmenter de 2 semaines la période d'accès à l'IVG parce que actuellement l'accès est plus compliqué. Cette proposition de loi, elle a été refusée. Qu'est-ce que ça dit de notre gouvernement?
En fait, c'est dramatique. C'est une véritable gifle aux femmes parce que pour moi, aujourd'hui, l'IVG doit être inscrit dans la Constitution. C'est vraiment... dans la Convention, excuse-moi. Dans la Convention, c'est quelque chose qui doit être gravé dans le marbre. Et pour moi, c'est une véritable gifle. C'est une gifle déjà par rapport aux droits des femmes. C'est un refus de prendre conscience de nos problématiques et de ce qui nous touche. Et puis, imagine un petit peu ces femmes qui vont être conditionnées à devoir avoir une grossesse non désirée parce qu'il y a eu une période de confinement en France. Mais c'est hallucinant. Et puis, même, il y a une disparité. Il y a toutes les femmes qui ont potentiellement et financièrement peuvent aller avorter en dehors de la France, ça c'est possible pour elles. Il y en a économiquement qui sont bloquées ici, qui n'ont pas les moyens d'aller avorter en Espagne et qui sont obligées de subir une grossesse. Donc moi je trouve ça vraiment dramatique et vraiment il faut être très vigilante là-dessus. Il faut exiger en fait que ces structures d'accueil pour avorter bénéficient de protection efficace comme tous les autres services et puis surtout parce qu'il y a moins d'effectifs, il y a moins de personnes qui sont là, donc c'est vraiment compliqué en fait, les fréquences sont ralenties et il aurait fallu en fait que le gouvernement rallonge d'autant de semaines de confinement le délai pour avorter. Je suis désolée, mais là c'est vraiment dramatique, c'est un coup dur porté à nos droits. On est quand même assez responsable de nos utérus, on fait ce qu'on veut de nos corps, et si on monte en volonté, il faut qu'on puisse le faire, et bien à contexte exceptionnel, à mesure exceptionnelle, et j'aimerais que le gouvernement suive. Là, c'est vraiment un coup dur.
Les forces de l'ordre sont aujourd'hui mobilisées pour faire respecter le confinement et ne peuvent pas ou refusent de s'occuper des violences conjugales. Les soignants et les lits sont mobilisés évidemment pour les malades, mais le recours à l'IVG est donc en danger. Est-ce que cela signifie que les droits des femmes seront toujours relégués au second plan dans des situations de crise?
Oui, les droits des femmes sont souvent relégués au second plan dès qu'il y a une histoire de crise. En fait, on n'est plus la priorité, mais je m'excuse, on est 52% en France. Donc on reste une priorité et c'est pas du tout nos droits, nos corps qu'il faut mettre au rabais. Je pense que il n'y a pas de consensus à avoir sur nos priorités, et il faut continuer à se lever. Mais je questionne aussi de toute façon la stratégie gouvernementale, ne serait-ce qu'au niveau des féminicides, puisque j'ai notifié que depuis le mois de janvier, comme c'est étrange, nous avons, et j'aimerais que ça soit la réalité, attention, j'aimerais que ce soit la réalité, nous n'avons que 20 féminicides intrafamiliaux de déclarer, en tout cas de comptabiliser, et c'est impossible, ce n'est pas possible qu'en franchissant la barrière de décembre à janvier, en fait, d'un coup, les féminicides s'arrêtent comme ça par magie. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut plus comptabiliser. Donc, en fait, la mobilisation autour de cette problématique se termine, et c'est une façon de faire aussi du gouvernement, c'est-à-dire qu'elle fait taire les parquets, elle fait pas remonter les infos. Les procureurs ont dû avoir pour mission de taire toutes les informations liées au féminicide, en tout cas au meurtre sexiste, et du coup, dans la presse, plus rien ne paraît. Et c'est pas pour ça que ça n'existe pas, c'est pas pour ça que derrière ça ce n'est pas là, comme tu le soulignais. Il y a des violences intrafamiliales qui vont augmenter qui sont en train d'augmenter en période de confinement. Et donc, on peut justement imaginer que, malheureusement, suite à ça, il va y avoir des meurtres, il va y avoir des assassinats de femmes. Ça, c'est sûr. Mais en fait, il y a une espèce de... Comment t'expliquer ? Il y a vraiment une volonté, parce qu'il y a une grosse mobilisation en 2019, il y a une volonté du gouvernement à faire taire, à museler les postures. La population civile aujourd'hui est extrêmement sensibilisée, les gens ont compris, les gens sont à nos côtés, et donc du coup ça gêne un petit peu les entendements de certaines personnalités politiques.
Et du coup, là, on l'a dit, en fait, finalement, les mesures mises en place par le gouvernement ne sont pas efficaces ou aussi utiles qu'ils le prétendent ou qu'ils voudraient qu'elles le soient. Qu'est-ce que vous conseillez, Sophia, aujourd'hui, pour les femmes victimes ou les enfants victimes ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Moi, en fait, j'ai pas de demi-mesure. Je m'appuie, en fait, sur les directives de Benoubé, et j'invite tous les citoyens, les citoyennes à agir. Je l'ai moi-même fait infecter avec 39 de fièvre. Ma voisine était en train de se faire taper et de se faire battre. Et je suis intervenue, je suis allée frapper à sa porte et je me suis positionnée entre elle et son conjoint. Et j'ai demandé à son conjoint de partir. En fait, on est en capacité, nous aussi, d'intervenir. Et j'arrête pas de le dire. Des fois, juste de taper à une porte, de lever la voix, de rassembler des voisins et d'aller se positionner contre des violences, déjà, ça marque un pas pour la prise de conscience de la victime et de l'autre, en fait, pour le conjoint violent. En fait, il réalise qu'il n'a plus le dessus, en fait, que la honte est en train de changer de camp et que désormais tout le monde sait. Ça, je l'ai constaté, puisque c'est quelque chose qui peut intimider. Et puis j'invite aussi les gens à appeler la police, à appeler le 17, ou à se connecter via la plateforme qui est très efficiente, qui fonctionne très très bien. En tout cas, je l'ai utilisée pour des femmes victimes, pour alerter, ça a marché. C'est la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est directement reliée à la police. Ça, il faut vraiment l'utiliser. Et puis, n'hésitez pas à faire marcher la solidarité, la sororité. Si vous n'avez pas d'autres moyens d'exfiltrer des femmes, il y a des réseaux qui existent. On parle entre nous, on se fixe nos plans d'appartements, de studios. Dernièrement, via Abri de Femmes et une amie, on a réussi à loger une jeune femme de 21 ans réfugiée qui a été violée dans la rue. On a réussi à la reloger dans un studio à Paris. Donc vraiment, il faut pas hésiter à parler, il faut pas hésiter à communiquer, il faut pas hésiter à chercher, il faut pas hésiter à nous solliciter en play ou en DM sur nos comptes. Et on essaie ensemble de trouver des solutions, de briques et de braques cousues de fil blanc. Mais le plus important, en fait, c'est d'essayer de trouver des choses ensemble et de se tirer d'affaire des fois pour un moment. Et puis ça permet de rebondir. Voilà, ce que je dis, en fait, c'est qu'il faut vraiment actionner nos oreilles, nos yeux et notre solidarité, notre sororité.
Merci beaucoup, Sophia.
Je t'en prie, Margot.
Soyez vigilants, vigilantes, attentifs et attentives, et faites du bruit, appelez, signalez les comportements suspects. Ce confinement révèle bien d'autres comportements sexistes et exacerbe la fracture sociale. De l'amende que l'on reçoit quand on va acheter des serviettes hygiéniques, protection périodique que monsieur l'agent ne considère pas de première nécessité, à l'obligation de travailler sans aucune protection, du confinement dans sa résidence secondaire au rayon vide des grandes surfaces, de la mort de Daouja, 6 ans, à celle de Patrick, 44 ans.
Te conjuro, te dejo prendado. Encima del techo olvido los pecados. Y que todos los santos tienen su pasado.
No fue con las tres aparatas.